Le journal présenté par Caroline Félix.
Bonjour, bonjour à tous. Les États-Unis frappent le Venezuela au portefeuille. L'embargo pétrolier entre en vigueur aujourd'hui. Désormais, aucune entreprise américaine ne pourra acheter du pétrole au pays. Les opérations pour leur acheter du pétrole via une banque américaine seront interdites pour tout le monde. L'objectif est d'affaiblir le régime du président Maduro. Cet embargo, c'est un coup de grâce pour le Venezuela, d'après Francis Perrin. Il est spécialiste des questions pétrolières à l'IRIS.
On peut analyser ces décisions américaines comme ce dernier coup de grâce. Le pétrole est essentiel pour l'économie du Venezuela. Le pétrole représente 90 à 95% de la totalité des exportations du pays. Et ça veut dire que le pétrole soutient donc l'ensemble du pays et l'économie, ou en tout cas ce qu'il en reste. Les Américains, qui considèrent que le régime Maduro est illégitime, ils ne parlent d'ailleurs plus que de l'ex-président Maduro, et qui ont choisi de se ranger derrière Juan Guaido, ont pris depuis quelques mois plusieurs mesures de sanctions et de pression économique, et ils durcissent régulièrement le nœud coulant autour du régime, de l'ex-régime Maduro. Et évidemment, lorsque l'on veut affaiblir un pays tel que le Venezuela, le pétrole est évidemment l'arme clé, ce qu'a bien compris l'administration Trump.
Des propos recueillis par Christian Chesneau. États-Unis toujours, une fusillade dans une synagogue de San Diego fait un mort et trois blessés. Un homme a tiré au fusil d'assaut sur des fidèles. Hier, il s'est rapidement rendu aux autorités. Il se revendique comme antisémite. Cela fait une semaine que Volodymyr Zelensky est président de l'Ukraine. Une semaine tout juste et déjà quelques passes d'armes notables avec son homologue russe. La dernière en date, la déclaration de Vladimir Poutine hier. Il dit vouloir faciliter l'obtention de passeports russe à tous les Ukrainiens, une mesure qui met Volodymyr Zelensky sous pression, Jean-Didier Revoin.
Mercredi, Vladimir Poutine avait décidé de faciliter l'octroi de la nationalité russe pour certaines catégories de citoyens des régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk dans le Donbass, au grand dam du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'ancien humoriste avait aussitôt réclamé de nouvelles sanctions contre la Russie, mais pas de quoi impressionner le président russe. Hier, depuis Pékin, Vladimir Poutine a confié qu'il pensait à étendre cette simplification à l'ensemble des citoyens ukrainiens tout en jouant l'apaisement, se disant prêt à rencontrer le nouvel homme fort de Kiev. Le président russe s'est dit convaincu que les Ukrainiens l'avaient élu pour mettre fin au conflit dans le Donbass et dès lors Vladimir Poutine en a profité pour dicter ses conditions. Seule la mise en œuvre complète des accords de Minsk permettra de résoudre la crise, ce qui implique l'octroi d'un statut particulier aux régions séparatistes et une amnistie pour ses habitants. Un moyen d'accroître la pression sur Volodymyr Zelensky, qui ne sera investi qu'en juin prochain et devra attendre l'automne et les législatives pour disposer éventuellement d'une majorité parlementaire.
Explication de Jean-Didier Revoin à Moscou. Les Béninois appelés aux urnes aujourd'hui, les élections législatives se tiennent ce dimanche. Le Bénin, jusqu'ici présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, mais cette année, l'opposition est privée d'élections. Seuls deux partis sont dans la course, des partis affiliés au pouvoir en place. Jour d'élections législatives en Espagne également, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez est bien parti pour être réélu, mais la formation d'extrême droite est en embuscade. En Allemagne, les conservateurs ont lancé la campagne des élections européennes. Ça s'est passé à Münster hier. C'est une page qui se tourne pour le parti conservateur, la CDU. Angela Merkel ne s'est pas montrée au meeting. La chancelière n'est plus présidente du parti. La tête d'affiche de la CDU, c'est désormais Manfred Weber. Il est le chef de file de la droite européenne, tête de liste du Parti populaire européen. Ludovic Piétenu, vous étiez à Münster hier.
Cela faisait 19 ans que l'Union chrétienne démocrate allemande, la CDU, n'avait pas lancé une campagne sans Angela Merkel. Mais ce vide est vite remplacé. La droite allemande a voulu montrer hier qu'elle pouvait faire sans elle. La vedette, c'est Manfred Weber, 46 ans, non seulement tête de liste des conservateurs allemands, mais aussi de toute la droite européenne.
Gemeinsam für Manfred Weber als neuen Präsidenten der Europäischen Kommission. The power of we.
Et il a de l'ambition, comme il est dit dans ce clip de campagne, cet homme issu des rangs du petit parti bavarois CSU espère, en cas de pole position de la droite aux élections, présider la Commission européenne. Sur scène, celui qui veut jeter des ponts entre les conservateurs européens insiste sur la dimension chrétienne de ce continent qui doit défendre un mode de vie européen. En anglais dans le texte, il se prononce contre l'adhésion de la Turquie à l'Union.
Avec son fort accent bavarois, Manfred Weber en rajoute, en voyant les tours de Notre-Dame brûler, j'ai été, dit-il, atteint dans mon identité.
Ludovic Piétenu à Münster. En France, faible mobilisation des gilets jaunes. Hier, le ministre de l'Intérieur a recensé 23 600 manifestants. Ils étaient 60 000 d'après les gilets jaunes eux-mêmes, un chiffre en baisse dans les deux cas, mais les manifestants et les syndicalistes disent se réserver pour mercredi le 1er mai. C'est ce que vous avez pu constater à Paris, Sébastien Sabiron, où certains gilets jaunes ont défilé aux côtés des syndicats.
Pour Léo, 27 ans, gilet jaune, ce 1er mai sera forcément une date marquante dans la jeune histoire du mouvement.
Oui, je pense que ça va être important. Les gens ont quand même une symbolique de ce qu'est le 1er mai. Que ce soit les syndicats qui seront derrière, ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils seront un peu plus en retrait et qu'ils laisseront la manifestation populaire se dérouler. Je pense que c'est important que les syndicats soient derrière, c'est une très bonne base. Donc je pense que ça ne va pas se terminer.
Un nouveau pas vers cette fameuse convergence des luttes que certains appellent de leur vœu, alors que les grands leaders syndicaux ont raté le coche des ronds-points. Alain Zamit, secrétaire CGT au Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
Qui aurait pu dire il y a quelques mois que les gilets jaunes seraient comme ça, que la CGT serait dans le coup aussi? Personne. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ça sera aussi un petit ruisseau le 1er mai. Et puis un jour, on va tous converger.
Mais si les combats sont en partie communs, les méthodes restent différentes, regrette Timothée Esprit, délégué CGT à l'usine Toré près de Pau.
La bataille des gilets jaunes et la bataille de la CGT doit s'incruster dans les entreprises. C'est comme ça qu'on bloque l'économie. Tout le monde aujourd'hui se targue à la CGT comme chez les gilets jaunes de mai 68. Mais c'est un mouvement qui a rassemblé 10 millions de grévistes, pas 10 millions de manifestants. C'est ce qu'il faut relancer, la machine, c'est la machine à la grève.
Un 1er mai qui s'annonce agité. Sur Facebook, la page Black Bloc France appelle à faire de Paris la capitale de l'émeute.
Et un coup d'œil à la météo aujourd'hui, le temps sera bien nuageux et frais sur l'ensemble du territoire.